Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait. Je vous invite à la prière. Demandez à Henri s'il veut bien prier. Bénissons, Seigneur, notre Dieu. Merci, Jésus. Merci, notre Dieu. Merci Jésus. Amen. Nous bénissons Dieu qui nous fait cette grâce d'être dans sa présence. C'est lui qui nous donne le souffle. Son souffle vient du souffle de Dieu. Souffle de Dieu, nous te bénissons pour ce privilège de te connaître. Vivre dans la maison de Dieu. C'est ce thème que nous conclurons aujourd'hui. Dans cette épître à Timothée, nous sommes en train de laisser l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, faire de nous ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de la maison de Dieu. Et en visitant ce thème, c'est dans ces temps difficiles, comme Teddy l'a introduit pendant cette présidence de culte, c'est des temps où Dieu veut aussi affiner ses enfants, les rendre véritables, n'est-ce pas ? La Bible dit que l'épreuve qui survient aux croyants et qui survient dans le monde entier, Dieu parfois la laisse pour affiner. Comme cet matériau précieux, cet or, lorsqu'on le retire des minéraux donc de la terre, il n'est pas pur. Il dit qu'il faut le mettre dans un creuset, alimenté d'un feu avec une certaine intensité pour que tout ce qui n'est pas pur comme l'or puisse se dissoudre et que seul l'or pur puisse se dégager de ce fourneau. Et c'est cette illustration que prend l'apôtre pour parler des épreuves que le croyant peut traverser. Que ce soit des épreuves circonstancielles liées à lui-même ou que ce soit des épreuves plus larges qui touchent la communauté ou la société en général, ces choses sont là pour que le croyant puisse devenir pur. Se sanctifier, ressembler à Jésus. Alors, que ces temps qui sont des temps difficiles, que certains appellent des temps de jugement de Dieu, parce que, effectivement, dans le passé, les pandémies étaient vraiment des jugements de Dieu. Ils étaient vécus comme ça. Ou certains appellent simplement des épreuves qui arrivent au monde pour que le monde puisse réaliser que notre vie ne dépend pas finalement de notre évolution. Nous sommes au XXIe siècle, nous sommes le siècle, semble-t-il, le plus évolué depuis bien des siècles. Et pourtant, un petit virus inconnu a pu nous paralyser. Et il nous paralyse depuis plus d'un an maintenant. On voit bien que malgré notre gigantesque, parce qu'on dit que nous sommes au sommet de la chaîne alimentaire, malgré le fait que nous soyons au sommet, un petit virus nous a tous affectés et continue encore de nous affecter. Alors il y a une remise en cause. Cette remise en cause, elle est dans le sens où aussi nous devons regagner notre humanité sur Dieu, notre dignité d'homme et de femme, selon ce que Dieu a fait. Et je vous avais encouragé à venir à l'église avec cette idée que c'est la maison de Dieu, la famille de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. C'est ici, c'est dans les églises que la vérité de Dieu est proclamée, qu'elle est dite, qu'elle est enseignée. C'est là que nous pouvons la recevoir comme un lait, comme une nourriture spirituelle pour nos âmes. Pas que pour nos âmes, parce que nous ne sommes pas qu'une âme vivante, nous sommes une personne vivante. Âme, corps et esprit. Et tous ces différents éléments de notre corps sont impactés par la parole de Dieu. Et on a vu l'exemple de Timothée. Et justement, dans ce service dans la maison de Dieu, l'apôtre Paul disait à Timothée, ne néglige pas le don qui t'a été donné. Et c'est là que nous sommes un peu focalisés la dernière fois, ce don qui a été donné à Timothée. Timothée a été en bénédiction à l'église locale d'Éphèse, mais à toutes les églises. Et l'invitation ici, c'est que quand on lit les textes bibliques, la Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux qui ont reconnu qu'ils étaient pécheurs, qu'ils n'avaient pas de solution pour leur vie présente et même pour leur vie éternelle, et qui ont accepté Jésus dans leur cœur, Dieu a fait d'eux des enfants de Dieu, des enfants de la maison de Dieu. Et par effet de conjugaison, Dieu a mis en eux au moins un don pour qu'ils soient utiles à la maison de Dieu. Et l'apôtre Paul le dit dans l'épître aux Corinthiens, l'apôtre Pierre le redit aussi dans la première épître de Pierre, il dit qu'à chaque chrétien a reçu de Dieu un don pour être au service de la maison de Dieu. Et l'idée de cette prédication de la fois dernière, c'était de dire, tu as un don, j'en ai un. Si tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas possible que tu n'aies pas un don. Tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas, peut-être qu'il faut chercher à le savoir. Et tout ce que j'ai dit avec le support qui est mis à disposition, c'est pour que chaque enfant de Dieu connaisse son don et qu'il soit utile à la maison de Dieu. N'est-ce pas? Et il y a cette autre parole de Dieu qui dit que dans une maison, il y a beaucoup de vases. C'était l'époque des vases. Maintenant, on dirait qu'il y a beaucoup d'ustensiles qui servent dans la maison. Il y en a qui sont des ustensiles qu'on sort lorsqu'il y a des occasions spéciales. Des ustensiles d'honneur, n'est-ce pas? Je suppose, peut-être que ça vous arrive, mais je ne sais pas si vous buvez tous les jours dans des flûtes. Je pense que les flûtes, on les sort que lorsque on reçoit de la visite. Il y a cette vaisselle qui est toujours mise quelque part et qui n'est pas utilisée ordinairement, sauf qu'on a de la visite. Et l'apôtre Paul dit, dans une maison, il y a des ustensiles qu'on utilise tous les jours, mais il y a des ustensiles d'honneur qui sont réservés pour des moments spéciaux. Et nous sommes de ceux-là. Nous sommes des enfants de Dieu mis à part dans le monde et nous sommes comme des ustensiles d'honneur que Dieu veut utiliser pour son service, pour le royaume de Dieu. Et nous sommes de ceux-là. Et alors il dit à Timothée, ne néglige pas cela. Tu le connais, tu le manifestes. Et nous avons vu cette palette de dons que je citerai rapidement, parce que ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Je vous ai dit, il y a un support. Il y en a qui sont déjà inscrits dimanche dernier. Le support sera disponible pour eux. Quelques étapes pour manifester ce service et ces dons. Comment découvrir, comment les vivre? D'abord la prière, parce que c'est des dons de Dieu. Si c'est des dons de Dieu, c'est dans la prière. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, aspirez à ces choses, parce qu'elles sont nobles. Aspirer à servir son Dieu, c'est quelque chose de noble, n'est-ce pas? Ce Dieu a tant fait pour nous que la moindre des choses qu'on peut faire, c'est de le servir. Notre amour passe aussi par le service de Dieu. Et si nous aspirons à cela, prie Dieu. Demande au Seigneur, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, je veux te servir. Montre-moi, guide-moi. Cette prière, elle est utile, parce que c'est elle qui montre à Dieu que nous sommes intéressés à le servir. Parce qu'en communiquant comme ça avec Dieu, nous lui demandons de nous éclairer au travers aussi de la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est la disponibilité pratique. La disponibilité pratique, c'est les dons sont accordés pour le service. Est-ce que tu es prêt à être utilisé par Dieu? Est-ce que tu es disponible pour servir Dieu? Est-ce que tu es disposé à servir ton Dieu? Combien d'heures es-tu prêt à donner à Dieu pour son service? Même si on dit que servir Dieu, c'est tous les jours, c'est vrai, mais spécifiquement pour l'Église, il y a quand même des engagements spécifiques. Parce que l'église, ce n'est pas mon lieu de travail. L'église, ce n'est pas la maison. Même si nous faisons tous partie de la famille de Dieu et que ce que nous faisons à la maison, au travail, à l'école, compte dans notre maturation d'enfant de Dieu, mais nous savons que s'il n'y avait pas eu l'œuvre missionnaire, s'il n'y avait pas eu l'œuvre de l'église, ben nous ne serions pas là. Parce que l'église a cette œuvre particulière de proclamer la vérité, d'annoncer la bonne nouvelle et d'attirer des hommes et des femmes à Dieu et d'enseigner les enfants de Dieu pour qu'ils demeurent fermes dans la parole de Dieu et qu'ils puissent servir à Dieu. Donc, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à donner du temps pour l'église? À t'engager dans l'église? Et puis, il y a l'acquisition des connaissances. C'est ce que j'essaie de faire avec vous. Acquérir les connaissances sur ces dons, les savoirs, parce que la Bible nous donne tous ces textes, Corinthiens, Romains, 1 Pierre, qui nous parle des dons spirituels. Toute la Bible est traversée par tous ces hommes et ces femmes qui ont été au service de Dieu. Nous avons besoin d'être enseignés. Et là, c'est juste un commencement. Je parlerai avec les anciens, peut-être que à Pâques, le séminaire de cette année, nous mettrons l'accent sur les dons spirituels. Nous aurons plusieurs jours, nous allons parler de ces choses. Ça, c'était qu'un début, en vous donnant ce début de connaissance, mais on va y travailler ensemble. Et puis, lorsque ces dons sont manifestés, ou quand on commence à aimer, à servir Dieu, est-ce que tu as du plaisir? Le plaisir, ce n'est pas juste la joie. Le plaisir, c'est le zèle. Vous savez, le zèle, c'est au-delà de la joie. S'il n'y avait que de la joie, les missionnaires qui sont sur les terres où on les persécute, ils ne seraient pas missionnaires là-bas. Parce qu'il faut être vraiment fou pour aller dans un endroit où on cherche à tuer les chrétiens. Et toi, tu dis, j'y vais pour annoncer l'évangile. Ce n'est pas par plaisir, mais c'est ce zèle. Donc, le plaisir ici, c'est ce zèle, cette dévotion, ce dévouement de dire, Dieu m'appelle, j'y vais. Et je le fais avec zèle. Le zèle, vous savez, c'est comme ce feu doux qui brûle dans vous, qui vous pousse à faire quelque chose, même si parfois c'est difficile, mais vous le faites pour le bien des autres. Vous le faites pour le bien de la communauté, vous le faites pour la gloire de Dieu. Est-ce que quand vous manifestez votre don dans l'église, est-ce que c'est ce zèle-là que vous avez, ce plaisir, ce dévouement à donner à Dieu? Et puis, on essaie de servir Dieu. Moi, je vous ai dit dans mon parcours, j'ai essayé plein de choses dans l'église, parce que je voulais servir Dieu. Et les aînés m'ont outillé, j'ai tâtonné dans beaucoup de choses. Mais comme mon désir était saint, Dieu m'a accompagné. Il ne faut pas hésiter à essayer, il ne faut pas hésiter à faire, il ne faut pas se bloquer à faire. C'est en faisant qu'on discerne et qu'on peut être orienté. Amen. Et donc, c'est important. Et puis ensuite, comment je sais que je suis à la bonne place? C'est ce qu'on appelle l'efficacité. L'efficacité, ça ne veut pas dire que je réussis tout, mais ça veut dire que manifestement, quand je fais, il y a des fruits qui sont bien. Voilà. Si je me dévoue à aider à cette salle à être propre tous les dimanches, tout le monde sera content d'avoir cette salle propre, n'est-ce pas? Donc ça sera vraiment, l'efficacité sera là. Si on a ce don de prédicateur, l'idée c'est qu'un prédicateur, quand il prêche, les frères comprennent quelque chose. Si ce don n'est pas là, et que tu prêches et que les gens ne comprennent rien, ou que les gens sont plus embrouillés, ça veut dire que tu as un autre don, mais pas celui-là. Donc c'est ce qu'on appelle l'efficacité d'un don. Parce que le don, il est donné pour le service de l'enfant de Dieu, pour qu'il y ait un plus, pas pour qu'il y ait un moins. Okay? Donc voilà quelques pistes pour nous aider. On pourrait y revenir dans ce séminaire dont je prie que le Seigneur nous donne la force de le faire dans cette période qui vient, début du mois d'avril, la période du mois de Pâques. Et brièvement, il y a le don d'apôtre, les 12, pas que prophétie, j'en ai parlé, évangéliste, les pasteurs, les enseignants, les docteurs de la parole de Dieu, ceux qui exhortent, ceux qui sont dans le service pratique de l'Église, la libéralité, le don de donner des finances à l'Église et du matériel pour que l'Église soit dynamique, puissante. Tout ce que nous avons là, c'est parce que chacun de nous a donné. Parfois, Dieu nous surprend, quelqu'un est touché par Dieu, il nous achète un matériel, il veut nous donner parce qu'on a dit qu'on en avait besoin. Tout ça, c'est la libéralité et Dieu en a besoin dans sa vie. Le don de direction, ceux qui dirigent des comités dans notre église, qui dirigent l'église. On a besoin que l'église soit organisée, que quelques-uns soient là dans telle ou telle communauté pour bien organiser les choses, pour conduire les choses, pour motiver. Le don de miséricorde. Nous sommes une famille. Et dans la famille, parfois, il y a des besoins. Nous avons besoin d'être sensibles. Notre armoire qui est là, dirigée par notre sœur Viviane, parfois, on a des vivres qu'on met à disposition quand des situations sont difficiles dans telle ou telle famille pour que nous puissions donner à ces familles-là. Mais nous sommes aussi sensibles dans la ville, et nous faisons aussi des dons à des personnes que nous ne connaissons pas forcément, qui ne sont pas de l'Église, et même nous avons ce projet aussi, de faire des collectes, pourquoi pas, on l'a déjà dit, on attendait que les choses se mettent en place pour aussi alimenter la croix rouge de notre vie, parce que nous sommes des croyants et nous sommes là aussi pour soutenir. Ça, c'est la miséricorde, c'est ça, être sensible, donner, accompagner, ne pas être juste dans la pitié, mais dans l'action. Il y a des situations qui sont difficiles dans telle famille ou quand des gens nous approchent en tant qu'église. Une parole de sagesse, hein, des gens qui sont portés par Dieu à donner une parole qui vient à propos, qui est vraiment une parole délicate, une parole de Dieu qui touche et qui encourage. Une parole de connaissance, hein, la parole de connaissance, c'est ceux qui sont aussi capables, comme des docteurs, comme des enseignants, d'apporter une parole de Dieu qui est puissante et qui éclaire quelqu'un dans un moment donné qui a besoin peut-être d'être éclairé par la parole de Dieu. Hein, le don de foi, nous tous, nous avons ce don. Parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Mais il y en a qui sont des fous, on dirait. Où tout le monde dit, oh, c'est un peu compliqué. Lui dit, oh, on va y aller, ça va aller. Tu dis, bon, ça va aller, on ne sait pas trop. Mais il est convaincu d'une façon spéciale par l'Esprit de Dieu. Et quand on s'y engage, on voit le fruit. On dit, waouh, il avait vraiment raison de nous conduire par là. C'est le don de foi. Hein? Et ce don de foi, quelques hommes et quelques femmes dans le monde l'ont eu parce que c'est grâce à tous ces dons que l'Évangile continue d'être annoncé. Si nous sommes ici, c'est parce qu'à un moment donné, il y a des missionnaires qui ont eu son don de foi, qui étaient des fous, qui ont dit, Dieu nous dit d'installer une église à Créteil. Ils sont venus, il n'y avait rien, mais ils avaient la conviction que Dieu allait faire un travail ici. Ils s'y sont engagés, et voilà, il y a eu une église. Donc ce don-là, Dieu le donne aussi à des moments spécifiques, à des personnes spécifiques. Et puis il y a le don de guérison. Hein? On n'est pas tous des guérisseurs, ce n'est pas l'idée. Même celui qui a ce don, il n'est pas un guérisseur, mais Dieu l'utilise. Dans la prière, à un moment donné, il prie, et puis quelque chose se passe. La personne est guérie, la personne est rétablie, n'est-ce pas? Et Dieu fait ça aussi, parce que Dieu est le Dieu de la science, donc de tout ce qui est science médicale, n'est-ce pas? Parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Mais quand des blocages sont là, bah, lui, c'est lui qui débloque aussi les situations, n'est-ce pas? Comme Jésus, dans son ministère physique, terrestre, il a guéri des lépreux, alors qu'à l'époque, on ne guérissait pas la lèpre. Même aujourd'hui encore, on arrive à atténuer, mais dans certains pays, ce n'est pas encore ça. Et Jésus guérissait la lèpre, puis touchait les gens. Incroyable. Et Dieu continue de faire ça. Il y a eu des campagnes d'évangélisation où Dieu a fait des choses extraordinaires, où des infirmes ont marché, où des aveugles ont eu la vue, où des gens qui étaient vraiment dans des positions de maladie catastrophiques ont été rétablis. Parce que Dieu fait ça pour montrer qu'il est toujours au petit soin des hommes, même si on ne le sent pas. Okay? Donc il y a ces dons de charisme, de miracle, de guérison. Il y a le discernement des esprits. Vous savez, la Bible dit que malheureusement, le diable et ses sbires ont la facilité de se transformer en ange de lumière. C'est ce qu'on appelle les pièges et les ruses de l'ennemi. Et ce don est là pour discerner que cette action-là, elle n'est pas de Dieu, même si elle ressemble à Dieu. Elle n'est pas de Dieu. On raconte cette histoire d'un missionnaire qui était dans une campagne d'évangélisation. Et puis à un moment donné, il y a eu une manifestation un peu extraordinaire. Tout le monde disait, waouh. Vraiment, Dieu est là, et puis il a dit, non, il a dit au nom de Jésus. Parce que lui, il était convaincu que ça ne venait pas de Dieu. Et il a dit, ça, c'est pas de Dieu. Il a prié et le truc a disparu du coup. Donc parfois, on pense que tout ce qui est extatique, tout ce qui est bizarre vient de Dieu. On a besoin de ce don pour discerner. Parce que le diable, il utilise ça pour détourner les gens. Parce que comme on est des gens qui aiment les choses un peu extraordinaires, bah, lui, il le sait. Il pige, et on a besoin de ce don aussi pour discerner. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle les dons de langue. Hein, les dons de langue, c'est dans certaines conditions, Dieu utilise des gens qui n'ont pas appris une langue, qui parlent dans ces pays-là. Et les gens comprennent. Et les gens traduisent. Ils disent, waouh, mais est-ce que tu as appris une autre langue? Non, mais parce que Dieu a besoin de communiquer l'évangile à cette personne. Donc, il utilise des gens comme ça pour donner cette parole de Dieu à un moment donné. Et puis, il y a l'assistance, donc l'entraide. Et puis, il y a tous les autres dons, prière, intercession, relation d'aide, missionnaire, hospitalité, musique, créativité artistique, habilité manuelle, organisation. Il y en a encore bien d'autres. Et tout cela, on a besoin de la maison de Dieu. Que Dieu nous aide. Mais ces dons-là, Dieu les donne parce que déjà notre caractère est transformé. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas qu'on le serve d'abord. C'est qu'on soit des enfants de Dieu. C'est qu'on soit des gens de la maison de Dieu. Que notre comportement, notre caractère, nos habitudes soient transformés profondément par Dieu. C'est ça que lui cherche. Et qu'ensuite, on puisse le servir. Parfois, les deux vont ensemble. Mais on a le sentiment que certaines fois, ce qu'on appelle le légalisme, c'est faire des choses, être dans la maison de Dieu, faire des choses pour plaire à Dieu. Dieu dit, oui, je veux ça, mais pas que ça. Hein? que je veux, c'est l'obéissance, c'est que vos vies me ressemblent. Hein. C'est pour ça qu'il a dit dans l'Ancien Testament, lors d'un épisode avec le roi Saül, il dit, ce qui me plaît, ce n'est pas le sacrifice, mais c'est l'obéissance. Que tu sois là en train de faire des rites pour m'honorer, d'accord, mais moi je veux ton cœur d'abord. Je veux que ta vie soit changée à la gloire de mon nom. Et c'est ce que nous allons voir. Et il dit dans 1 Timothée 6, et c'est là que nous sommes arrêtés, versets 11 à 16. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Je t'adjure solennellement devant Dieu, source de toute vie, et devant Jésus-Christ, qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate et par une belle profession de foi. Observe ce commandement en restant pur et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu suscitera au moment fixé. Il est le bienheureux, l'unique souverain, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel. Sa demeure est bâtie au sein de la lumière, inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux, aucun ne peut le voir. À lui soit jamais l'honneur et la puissance. Amen. Quand on lit ce texte, en tout cas, moi, j'en découle trois aspects de la marche chrétienne. Les trois aspects qu'on voit dans ce texte pour la marche chrétienne, c'est la purification, donc la pureté, la consécration et la confiance en Dieu, la foi. Il dit à Timothée, recherche ardemment la droiture. Ici, c'est la pureté. Recherche ardemment d'être un chrétien dont le comportement, dont la vie honore Dieu, plaît à Dieu. Ça veut dire renoncer au péché. Se purifier, c'est... Vous savez, quand on purifie quelque chose, on le décante de ce qui est mauvais pour garder ce qui est saint, ce qui est pur, ce qui ne fait pas de mal. C'est ça, purifier, nous. Hein? Dans nos grandes villes, on a ces stations d'épurage d'eau courante qui remettent dans le circuit les eaux usées. Donc il y a tout un système dans ces stations d'épurage qui nettoie l'eau à nouveau, qui purifie et qui fait repartir l'eau dans nos canalisations. C'est un peu comme ça. Dieu dit que nous avons besoin de nous purifier. Au fur et à mesure que tu avances dans ta foi chrétienne, tu dois te libérer de ce qui ne plaît pas à Dieu. Parce que Dieu, par son esprit, va t'aider à les identifier et tu le sauras. Plus tu grandis, plus tu sais que tel aspect, tel comportement, telle façon de faire ne plaît pas à Dieu. Parce que naturellement, vu que tu grandis dans ta foi, tu es en intimité avec l'Esprit de Dieu, lui, il te communique ce qui ne plaît pas à Dieu. Et tu le sens. Et tu ne peux plus rester la même, tu ne peux plus rester le même. Et tu as besoin de choisir. Et purifier, c'est à chaque fois que l'Esprit de Dieu te montre, c'est de te départir. En lui demandant, lui, la force de t'aider, mais aussi les efforts que tu dois faire. Recherche ardemment la droiture. Donc, il y a un effort du chrétien. La différence, c'est que Dieu nous sauve par grâce. Ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent. Mais une fois qu'on est sauvé, Dieu nous invite aussi, parce qu'il nous donne son esprit, à faire des efforts pour être transformé, changé dans notre comportement. C'est important. Dieu s'adresse à notre volonté, parce que notre volonté, maintenant, elle est régénérée. D'après Romains chapitre 12, verset 1, il dit, quand vous êtes transformé par le renouvellement de votre intelligence, maintenant vous savez discerner ce qui plaît à Dieu, ce qui ne lui plaît pas. Avant, vous ne saviez pas, maintenant vous savez. Comme vous savez, bah, faites tous vos efforts pour ne plus aller dans le sens des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Parce que tous ces péchés attristent le Saint-Esprit. Pourquoi ça attriste le Saint-Esprit? Parce que désormais, lorsque nous sommes chrétiens, ben, nous sommes en intimité avec Dieu et ça passe par son esprit. Et cet esprit, il est là avec nous. Imaginez-vous. Vous êtes sorti comme ce matin. Vous avez pris le soin. Parce que quand on vient en public, on prend le soin quand même d'être bien. N'est-ce pas? On passe les détails, mais en tout cas, on est bien. Et puis, à la sortie, parce qu'il a plu et qu'il y a quelques flaques d'eau, avant de rejoindre la voiture, en traversant la route, il y a un véhicule qui est passé dans cette flaque d'eau et qui vous a arrosé de la flaque d'eau. Et tout le pan droit de votre tenue est non seulement bien mouillé, mais vous sentez bien que ça n'a pas fait que mouiller, qu'il a aussi sali. Je vous demande, seriez-vous capable de venir quand même au culte ou... Je sais que les hommes, c'est possible qu'on vienne au culte. Je sais que si c'est des hommes, c'est une question à ne pas poser parce qu'ils sont capables de faire ça. En tout cas, quelques-uns d'entre nous. Mais je sais que les femmes, ce n'est pas possible du tout. Ce n'est pas possible. Elle aura le réflexe de dire, je ne peux pas aller comme ça. Il faut que je retourne me changer. Parce que là, quand même, ça ne fait pas bien de me présenter comme ça. Pour moi-même, ce n'est pas bien, mais pour les autres aussi. C'est comme ça le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il est avec nous, il nous renouvelle dans notre vie chrétienne. Et puis quand le péché revient, il n'est pas à l'aise. Il ne peut pas être à l'aise. Et du coup, comme on a une intimité avec lui, il ne nous laisse pas à l'aise. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se séparer de ces choses. Il faut s'éloigner de ces choses. C'est pour ça que ça l'attriste. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Il ne nous rejette pas. Au contraire, il est là avec cette douce voix. Ma fille, mon fils, c'est pour ton bonheur. Éloigne-toi de ce comportement. Lâche cette affaire. Sors-toi de cette chose. Libère-toi de ce truc. Avec cette douce voix, il te le dit là. Comme ça, régulièrement et constamment. Jusqu'à ce que son amour soit capable de te retirer de cette situation. Et là, après cette action, toi-même, tu dis, waouh, je croyais que je n'allais pas y arriver. Mais merci mon Seigneur parce que tu m'as aidé. Et tu vois toutes les bonnes conséquences positives d'avoir été sorti. Quand on est dedans parfois, quand on a le nez dans le guidon, on voit. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous dire, lève le nez, lève la tête, regarde l'horizon. Et là, tu te dis, waouh, ben, je ne voyais pas que c'était le mauvais chemin. Parce que j'étais comme ça. Mais en levant les yeux, j'ai vu que la direction que je prenais n'était pas la bonne. Il est là pour nous aider à ça. Purification, c'est ça. C'est de dire non au péché. De dire non au péché. Le chrétien, la chrétienne doit être quelqu'un, on utilise maintenant ce mot, la résilience. Il doit être quelqu'un qui résiste contre vents et marées avec persévérance au péché. Même quand le monde dit qu'un péché est bien, lui il résiste parce qu'il sait que ce n'est pas bien. C'est ça la purification. Ensuite la consécration. Il dit, devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Devenez donc des imitateurs de Dieu, des enfants bien-aimés. Consacrez-vous à Dieu. Cette consécration à Dieu n'est pas le fait d'être un religieux ou une religieuse. Cette consécration n'a rien à voir avec le fait que tu deviens pasteur, missionnaire. Non, cette consécration, c'est si tu es un enfant de Dieu, bah, consacre-toi à être un enfant de Dieu. Puisque tu es un enfant de Dieu, bah, consacre ta vie à devenir un enfant de Dieu. Tu l'es. Donc, laisse cet aspect qui est ton identité se manifester. C'est ça, se consacrer à Dieu. Imiter Dieu. Vivre comme des enfants bien-aimés de Dieu. Et quand on imite Dieu, on ne livre plus son corps au péché. On livre son corps aux choses que Dieu aime. On livre sa vie aux choses que Dieu aime. Donc on se consacre aux choses que Dieu aime. Et du fait qu'on se consacre aux choses que Dieu aime, bah, ça se manifeste dans l'amour de notre prochain. Ça se manifeste dans notre implication de la vie de tous les jours en tant que des enfants de Dieu, avec des fruits qui sont des fruits agréables à notre Dieu. Parfois on a pensé que consacrer, ça veut dire devenir missionnaire, devenir pasteur. Oui, ça a aussi ce sens, mais c'est d'abord pour tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, se consacrer à Dieu. C'est vivre selon la parole de Dieu. Mais ils ne vivent pas occasionnellement, pas circonstanciellement. Ils vivent tout le temps, tous les jours, toutes les secondes, toutes les tierces, en tout cas, ils vivent. Toujours, toujours. Quand on dit ça, on dit, ouais, mais c'est quand même inaccessible. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que l'apôtre Paul dit quoi dans la deuxième à Timothée? Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai couru la bonne course, j'ai remporté la victoire. un homme comme Paul qui dit ça. Si vous connaissez sa biographie, vous saurez que c'est pour ça que même dans cette épître, il dit, moi, je suis tellement reconnaissant de la grâce de Dieu. Parce que je suis le pire des pécheurs. Parce que moi encore, j'ai persécuté l'Église. Même si à l'époque j'étais ignorant, j'ai été quelqu'un qui a persécuté l'Église et qui a emmené pas mal de chrétiens à la mort. Il regrette ce passé de façon terrible. Il dit, et pourtant la grâce de Dieu m'a touché. Dieu a été capable de me pardonner et de me restaurer. Il dit, c'est pour ça que je suis plein de zèle pour annoncer au monde entier qu'il faut accepter Dieu. Parce que c'est un Dieu d'amour qui pardonne, qui restaure. Et si l'apôtre Paul a été capable de dire, j'ai couru la course jusqu'au bout. Le combat, j'ai été victorieux. Il dit, à l'heure actuelle, je sais que je pars bientôt, que la couronne de victoire m'est réservée. Il dit, non pas à moi seulement, mais à tous ceux qui, comme moi, vont aussi manifester cette suivante de Jésus, cette consécration à Dieu. Et pourquoi il est capable de vivre cette consécration? Et c'est le troisième aspect, parce qu'il a eu confiance en Dieu, c'est la foi. La Bible dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Puisque le salut ne vient pas par nos œuvres, mais c'est Dieu qui nous fait un cadeau. Comme à tous les hommes, à un moment donné, il t'interpelle, soit par une circonstance, soit par la prédication de l'Évangile, son esprit dispose ton cœur et tu dois y répondre. Et ta réponse, c'est cette confiance que tu mets dans ce moment précis où tu entends l'Évangile, ou dans cette période où Dieu est en train de travailler ta vie, cette confiance quand tu dis, waouh, j'ai compris, c'est toi qui agis. C'est ça la foi. Et c'est cette foi de départ, cette foi initiale qui fait de toi un enfant de Dieu. Parce que c'est le lâcher prise. Je lâche tout. Et je te fais confiance. C'est ça. Et cette foi initiale, elle est importante parce que c'est elle qui nous fait rentrer dans la famille de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 12, dit, car tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le privilège de devenir enfant de Dieu. Nous tous qui avons eu confiance en Jésus-Christ, a donné ce privilège d'être enfant de Dieu. Et cette foi doit maturer. Cette confiance doit grandir. L'initial, ça c'est pour notre salut. Mais la confiance ensuite, c'est pour notre sanctification, notre croissance. On doit garder cette confiance en Dieu. Nos cœurs sont purifiés par la foi. Par elle, nous recevons l'Esprit de Dieu. Christ habite dans nos cœurs par la foi. C'est cette confiance que nous avons en Dieu. Et c'est cette confiance qui fait que nous tenons bon malgré. Lui, il est vivant, il est là. Il ne lâche pas l'affaire. C'est une ferme confiance, n'est-ce pas? Où en es-tu avec ta foi? Où en es-tu avec ta confiance en Dieu? Il se trouve que parfois, les événements, les circonstances, les épreuves peuvent faire basculer notre foi. Les plaisirs aussi du monde peuvent faire basculer notre foi. Il n'y a pas que des choses difficiles, il y a des choses plaisirs aussi. Et devant toutes ces choses, tu dois avoir confiance en Dieu. Sa parole est la vérité. Quel que soit l'attrait du monde ou les difficultés du moment, fais-lui confiance. Parfois, des fois, les difficultés du moment, c'est pas évident, on est tous un peu comme ça. Actuellement, Caroline et moi, on prie pour l'une de nos sœurs. Ça fait tellement d'années qu'elle cherche à travailler. La pauvre, elle est très brillante. Elle est en doctorat, mais elle ne trouve pas du travail. Elle a passé pas mal de concours, ça ne marche pas. Et les autres qui sont un peu moins qu'elle marchent et lui disent, il faut donner quelque chose aux gens pour que ça marche. Et il y en a qui ont donné et ça a marché. Donc, tu vois, ça marche, mais il faut que tu donnes quelque chose. Et la pauvre, elle est en train de succomber à ça, c'est comme ça. Et nous, on comprend. Pas évident. Elle est jeune, elle est intelligente, mais le travail tarde à venir. S'il n'y a pas de travail, tous les autres projets sont un peu arrêtés. Qu'est-ce que tu peux dire à une chrétienne comme ça? Personne. Elle a confiance en Dieu. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que qui dit que l'année qui vient, le concours qu'elle va passer, ça va marcher? On n'en sait rien. En même temps, Dieu dit, il n'est pas le Dieu de la corruption. C'est là que la confiance en Dieu est importante. Parce que lui, il est fidèle. Parce que le prophète dit, parfois, la promesse de Dieu peut tarder, mais attends-la, elle
va arriver. Même si tout le monde dit autour de toi,
fais comme nous, toi tu dois dire, non, moi je fais comme Dieu l'a dit. Et comme les chrétiens le font. Pas comme tout le monde, mais comme les chrétiens le font. Quand Jésus a commencé son ministère, les gens ont dit, oh celui-là, on le connaît. C'est Jésus, il dit qu'il est le fils de Dieu, mais quand même, c'est le fils de Joseph, le charpentier. Il a même réparé nos tables dans le village de Nazareth, il raconte quoi lui? Mais lui, il savait qui. Il savait la confiance qu'il avait en Dieu. Et sa vie a manifesté qu'il avait raison. C'est vrai. Il était vraiment le fils de Dieu. Quand Noé a été averti par Dieu pour dire, je suis fâché avec l'humanité, parce que là, ils ne font rien de bon. Ils sont en train de faire tout ce qui est pire. Si je laisse, c'est la décadence totale. Il faut que j'agisse pour guérir l'abcès. Et pour guérir l'abcès, je veux faire venir le déluge. Mais je veux recontinuer parce que mon alliance avec les humains, ce n'est pas de les détruire totalement, c'est de leur donner toujours une chance de bien vivre. Construis une arche, mets tout ce que tu dois mettre dedans. Tu as la liste, et quand la liste sera bouclée, je ferai mon travail à moi. Quand vous lisez le texte, c'est incroyable. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il fait ce Noé? Pourtant, Noé avertissait les gens. Il dit, Dieu dit qu'il y a un déluge. Changez de vie. C'est marrant, toi. C'est quoi un déluge? Toi, tu crois que la pluie peut tomber comme ça et puis engloutir toute l'humanité? Toi, t'es un marrant. À la limite, t'es un fou dangereux. On ne va plus te fréquenter, sinon tes idées sont noires. Parce que quelqu'un qui croit que le monde entier va être détruit, c'est quelqu'un dont les idées sont noires. Bref, Noé a eu confiance. Cette parole, il l'a gardée dans son cœur. Il a exécuté à la lettre ce que Dieu lui a dit. Au moment où il a fini de tout boucler, le déluge a commencé. Trop tard. Et Dieu, il fait ça. Il avertit. Il parle. Il laisse les événements naturels pour avertir les hommes. On est touché. On est têtu. On est obtus. On est réfractaire. On est braqué. Et ceux qui ont confiance, ils disent non, la confiance en Dieu. Ne perdez pas votre confiance en Dieu. Même si les vents sont contraires, même si les plaisirs veulent nous attirer, autre part que dans la pensée de Dieu, demeurer dans la pensée de Dieu. Il est fidèle, bien-aimé. Tout n'est pas facile. Même dans le monde, tout n'est pas facile. Si c'était facile, ça se saurait. La foi, elle est importante. Cette confiance en Dieu. Et justement, c'est à la base de cette confiance en Dieu que la parole de Dieu nous dit que nous devons vivre pratiquement selon ce que Dieu nous dit de vivre. Il nous en donne un extrait, qui est l'extrait le plus majestueux, dans l'Épître aux Galates chapitre 5. Il dit, voilà comment un chrétien doit manifester les fruits du fait qu'il appartient à la famille de Dieu. C'est qu'on a appelé les fruits de l'Esprit. Galates chapitre 5, à partir du verset 1, mais en général, les fruits sont plus spécifiques à partir du verset 22, n'est-ce pas? Mais avant ces fruits, il montre quand même ce que nous étions, ce que nous ne devons pas être en tant que chrétiens. Et il dit, si nous marchons par l'esprit, nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Parce que les œuvres de la chair, donc de notre ancienne nature, elles ne sont pas compatibles avec les œuvres de l'esprit. Et que les deux, même sur certains aspects, rentrent en collision et tu ne peux pas vivre les deux, c'est presque pas possible. Parce que tu seras toujours en tension et ta vie sera une vitrice parce que entre ce que Dieu veut, ce que le monde veut, tu n'es pas en paix, pourtant tu joues du plaisir du monde, mais tu sais en même temps que ce n'est pas ça. Tu es triste. Tu es triste. Parce que l'Esprit de Dieu, parce qu'il t'aime, il ne te laisse pas tranquille. Oh mon coco Serge, là c'est pas bon. Et tu es dedans et dis c'est pas bon. Hein? Comme nos alarmes du matin, hein, quand tu le mets à 5h du matin, dès qu'il sonne, tu te lèves quand même. Puis maintenant, les alarmes, vous savez, c'est répété chaque 5 minutes. Tu le coupes, il se répète 5 minutes. Parfois, l'Esprit de Dieu, il est comme ça, parce qu'il nous aime. Il insiste. Il insiste. Ma fille, mon fils, sors de là. Va pas là. Fais pas ça. Sors de cette situation. Il insiste, il insiste, il insiste. Et comme on sait le faire avec nos alarmes, ben on le coupe. On le coupe. Et Dieu ne marche pas dans cette voie-là. Il dit, quelles sont les voies de notre nature humaine? Il dit, c'est la publicité. tout ce qui touche à l'immoralité sexuelle, tout ce qui touche à la sexualité qui n'est pas selon Dieu, sort de là. Il dit, c'est la jalousie, tout ce sentiment négatif qui te met toujours en porte-à-faux avec l'autre, avec ton prochain. Sort de là, c'est les querelles, c'est les divisions, hein, c'est les calomnies. Hein, il dit, c'est l'idolâtrie, tout ce qui a l'aspect mystique. Qu'est-ce que tu vas faire là? Il dit, sort de là. Donc il cite cette liste, il dit, cette liste-là n'est pas bonne, sors-toi de là maintenant. Il dit, mais tu es conduit par l'esprit. Dieu t'a sauvé par son esprit. Bah, laisse l'esprit de Dieu te conduire. Voilà quand l'esprit te conduit, voilà comment tu dois vivre. Mais ce que l'Esprit Saint produit, donc je suis au verset 22 du chapitre 5 de Galates, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Il dit, si nous sommes des enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes, ça veut dire que l'Esprit de Dieu nous a touchés, nous a tournés à Dieu, il marche avec nous, comme je l'ai dit. Il dit, mais si c'est le cas, tu as un bon compagnon, laisse ce compagnon t'aiguillonner sur les choses de la vie. Laisse cette petite voix, discerne cette petite voix à chaque fois que tu es sur une situation et entends-la, et surtout écoute-la. Et si tu l'écoutes, quels sont les fruits qui vont se produire? Ben, c'est l'amour. J'en ai déjà parlé dimanche dernier. L'amour, c'est un ingrédient incontournable de l'enfant de Dieu. Parce qu'il a dit que Dieu lui-même, il est amour. Mais il faut toujours se rassurer que nous parlons de l'amour selon la parole de Dieu, non pas l'amour selon le monde. Hein, parce que l'amour selon le monde, parfois, il y a beaucoup de déceptions avec. Beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. Parfois, on ne les vit pas sur le moment. Vie longtemps plus tard, on s'est dit, j'aurais dû ne pas. Et hélas. Et Dieu veut qu'on évite les hélas dans notre parcours de chrétien. Dieu veut qu'on évite le si je savais. Dieu veut qu'on évite et pourtant, Dieu m'avait dit. C'est vrai que c'est un Dieu d'amour. Il est toujours là pour nous récupérer, mais lui, comme des parents, quel parent qui veut laisser un enfant faire une mauvaise expérience avant de le récupérer? On essaie toujours de faire en sorte qu'il ne fasse pas la mauvaise expérience. Parce qu'on sait que ça va laisser des cicatrices sur lui. Et Dieu est comme ça. Il ne veut pas qu'il y ait des cicatrices. Il essaie. Il essaie de nous éviter les cicatrices. Moi, j'en ai encore quelques-unes sur le pied quand les enfants me disent, « Ah, papa, t'as des cicatrices où tu les as eues ?» C'est toute une histoire à les raconter. Bref, l'amour, la joie d'appartenir à Dieu. Es-tu joyeux d'être un chrétien? Est-ce que quand tu te réveilles malgré les épreuves, tu te dis, waouh, heureusement que j'ai Dieu. Heureusement que j'ai Dieu. Vous savez, dans les moments difficiles, ceux qui n'ont pas Dieu, bah, parfois l'issue n'est pas telle, ils se suicident. Parce qu'ils croient qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas d'après, qu'il n'y a pas d'espérance. Notre Dieu est le Dieu de l'espérance, bien aimé. Si je donnais le micro à quelques-uns, ils vous diraient, ouh, il y a des moments de nos vies, franchement, tout était nuage noir. On se disait, mais quand est-ce qu'il va avoir un beau ciel bleu? Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras que Dieu est toujours fidèle. Et cette joie de lui appartenir, elle ne dépend ni des temps ni des circonstances, parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et je vous parle avec beaucoup de frissons parce que voilà, il y a des fois en tant que couple pastoral, on traverse des moments où on se dit, waouh Seigneur, waouh Seigneur, tu peux faire les choses autrement avec nous quand même. Ouais, parfois c'est pas simple. Mais il est là. Et il nous dit à souvent à Caroline, il sert, il dit, regardez là d'où je vous ai pris, regardez là où je vous ai appelé, regardez là où vous êtes. Et puis on dit, oui, c'est vrai, Seigneur, tu as raison. Mais quand même, tu sais, j'arrête les mains quand même. On est des humains, il y a des moments où c'est dur. La joie, elle n'est pas juste une émotion. C'est aussi cette intimité avec Dieu où on a cette permission de lui parler tout librement comme David. Seigneur, ce n'est pas facile. Tu aurais pu nous éviter ça, Seigneur. Et puis on est en dialogue avec Dieu, avec sa parole. Puis il nous motive, il nous encourage. Et je pense que la plupart d'entre nous, cette expérience aussi, est la vôtre. Cette joie, gardez-la dans vos cœurs. Celle que nous l'esprit. Cette joie d'appartenir à Dieu. Cette paix que Dieu nous donne, la paix du salut. J'ai l'assurance de mon salut. C'est ça. C'est une assurance, elle est là. Dieu m'a sauvé. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, il lui l'a donné. Alléluia. Je suis en paix avec Dieu. Quelle joie. J'ai cette tranquillité dans mon cœur. L'apôtre Paul dit, si le Seigneur venait maintenant, je suis tranquille. J'irai au paradis de Dieu. Parce qu'il m'a donné de réconcilier avec lui. Il m'a donné la paix. As-tu la paix du cœur avec Dieu? C'est un fruit de l'esprit. Il y a la patience. Cette patience que Dieu forge en nous. Cette patience qui nous rend indulgents dans nos relations humaines. Hein? Dans nos relations humaines, on a besoin de patience. Ah, parfois, c'est patient. Dans la vie, tous les jours, on a besoin de patience. C'est vrai, quelquefois, Dieu fait les choses instantanément. Parfois, c'est lui qui décide. Et cette patience est là pour nous aider. Non seulement à continuer d'aimer Dieu dans les moments de joie, de bénédiction, mais aussi dans les moments d'épreuve. Mais elle est là aussi pour parfaire nos relations humaines. Hein? On a besoin de temps parfois pour que les relations... Voilà. On a besoin aussi parfois de patience pour pardonner ou pour aller demander pardon. Et celui qui est patient, quelqu'un dit, c'est celui qui renonce à la vengeance, aux représailles. Parce qu'il prend le temps de réfléchir lorsqu'il est blessé pour voir quelle est la bonne attitude. Lorsqu'il est injustement accusé, il prend le temps de réfléchir devant celui pour voir quelle est la bonne démarche à faire. Parce qu'il ne veut pas être forcément dans la représaille ni dans la vengeance. Il veut être dans la justice et dans la droiture selon Dieu. Parfois, ça prend du temps. Il a besoin de faire confiance à Dieu une fois de plus. La bonté, un chrétien, c'est quelqu'un de bon. Une chrétienne, c'est quelqu'un de bon. Nous sommes des enfants de la bonté. Nous devons être des gens de bonté. Dans un monde difficile, un monde méchant, un monde dégrat, nous devons continuer de dire, Seigneur, je veux être un fils, je veux être un fils, une fille de bonté. Je veux que ma vie, en tant que chrétienne soit pétrie. Fidélité. Nous devons être des gens fidèles. Fidèles à Dieu. Fidèles dans nos relations maritales. Il avait dit que le lit conjugal soit exemple de toute infidélité. Quand on est chrétien, qu'on se marie, bah, on a une seule femme, on a un seul homme pour la vie. Mais la fidélité va dans tous les domaines. Nous devons être fidèles à Dieu. Dans notre engagement dans l'Église, fidèles dans ce que nous faisons pour Dieu. Et puis la douceur qui rime avec la bonté. Nous devons être des gens soumis à Dieu. Capable de nous laisser enseigner par Dieu. Considérer aussi les autres. C'est ça la douceur. La douceur, ce n'est pas forcément ce qu'on nous reproche, ce n'est pas d'être des enfants. On dit on est des paillassons. Non, un chrétien n'est pas un paillasson. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est doux que les gens marchent sur nous à tort et à travers. Non, être doux, c'est avoir toujours la bonne façon et la bonne réaction devant les situations. Parce que la Bible dit que la colère est mauvaise conseillère. Que si on l'écoute, ça va vite. Et après, on regrette. Et la douceur nous aide à tempérer ces moments-là. Okay? Et puis enfin, un aspect qui touche à nous, c'est la maîtrise de soi. Ah là là, la maîtrise de soi. Se retenir, se discipliner, dominer nos pulsions, qu'elles soient sexuelles, nos passions, nos émotions, nos appétits. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne des dominants. En nous maîtrisant sur ces choses. Il nous accompagne aussi dessus. Voilà, bien-aimés. Terminer cette série, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être des enfants de Dieu, à vivre dans la maison de Dieu, à vivre comme des enfants de Dieu, avec ses qualités, avec ses traits de caractère, ses traits de comportement, tout en ayant ce désir de me servir et de me glorifier. Je vous invite à la prière. Te bénissons et nous te remercions. Que ta parole soit toujours celle qui nous dit.